Dialogue sujet psy. Fréquence protestante. Isabelle Fievé-Rossignol.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Daniel Cibouni. Daniel Cibouni, qui est l'auteur de Un amour radical, croyance, identité, aux éditions Odile Jacob. Daniel Cibouni est psychanalyste. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont un certain nombre sur les religions, sur les textes religieux des trois grands monothéismes. Il est philosophe. Et il est mathématicien. Alors Daniel Cibouni, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Parce qu'il est tout à fait original. Comment on passe des maths à la philo, à la psychanalyse?
Écoutez, moi je suis né à Marrakech, dans la Médina. Et ma langue d'origine, ma langue maternelle, c'est l'arabe, teinté d'hébreu biblique. Ma langue culturelle, c'est la Bible. Et ensuite, j'ai appris le français.
Et à quel âge vous avez appris le français?
J'ai commencé à 5 ans.
En allant à l'école, quoi, en gros.
Voilà. En allant à l'école, mais chez moi, on parlait arabe. Et donc, je suis venu en France à 13 ans. Et puis, j'ai étudié, j'étais à un collège qui m'a aimablement reçu, parce qu'on était fauchés, et puis on était une famille nombreuse, sans logement. On est parti en 55, avant l'indépendance. Et puis après, je suis arrivé au lycée Henri IV, et c'était très bien. Et après, je voulais faire des études supérieures. Et ce qui me séduisait, c'était les mathématiques, parce que ça me paraissait d'abord très difficile.
Ouais.
Et puis.
D'emblée.
Et puis, il me semblait que là-dedans, quand on produit quelque chose, ça tient ou ça tient pas.
Il y a une sorte de logique de vérité, quoi, un petit peu.
Oui. Une quête de vérité, ouais, absolument. Ouais. C'est sans doute que j'avais vécu dans une société où la vérité ne vaut pas très cher.
Il y a un peu trop de transactions entre les,
ou,
les trop idées, de, les gens.
De double discours, ouais. De louvoiement, etc. Je trouvais que c'était très bien, là, un domaine où, quand c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est indiscutable. Voilà. Un désir de repos aussi, de sérénité. Ouais. Et donc, j'étais d'abord chercheur en maths. Et puis j'étais assistant, puis prof à la fac en maths pendant des années. Et puis j'avais déjà rencontré la philo parce que j'avais fait des études en parallèle. J'étais agrégatif de philo, mais j'ai pas passé l'agrég parce qu'il fallait enseigner après la philo.
Oui, alors donc, entre les maths et la philo, ça devient un petit peu compliqué.
Voilà, mais j'ai passé un doctorat de philo avec Lévinas, Michel de Certeau.
Écoutez, et sur quel sujet?
C'était la transmission de la lettre dans, dans la Bible et ses commentaires.
Vous étiez bien sur votre chemin là déjà.
Hein. Voilà.
Ouais.
Et puis j'ai rencontré la psychanalyse et je pratique la psychanalyse depuis 44 ans. J'ai pas l'air vieux, mais...
En fait, vous êtes sage, quoi. Voilà. Ça a acquis une certaine sagesse.
Voilà. J'ai des kilomètres au compteur.
D'accord. Et cet intérêt, alors, pour les textes? Parce que c'est rare les psychanalystes qui s'intéressent aux religieux, vraiment.
Oui, mais alors, pour les textes, c'est un peu inné, parce que j'ai grandi, je vous l'ai dit, dans une communauté juive dans laquelle l'étude de la Torah, de la Bible, était allée de soi. Moi, j'ai réussi à entrer à l'école où on apprend le français grâce au fait que je lisais déjà l'hébreu.
Ah oui, sinon vous auriez été...
Recalé.
Ouais, d'accord.
Donc, l'étude des thèses, et puis le commentaire, et la réflexion, etc. Et j'ai écrit un livre qui s'est très bien diffusé, bien que, étonnamment, Je n'ai pas vu de compte-rendu de ce livre dans la presse, mais ça ne m'étonne pas. Il s'appelle « Les trois monothéismes ».
Oui.
Il a été très diffusé et il a été écrit en 92. Mmh. Et ensuite, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « Nom de Dieu » en 2002. Et ces dernières années, j'ai écrit sur l'art, j'ai écrit sur le contact entre la philosophie et la psychanalyse et aussi la Bible. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Question d'être, entre Bible et Heidegger ».
Oui.
Mais ces toutes dernières années, j'ai écrit 4 ou 5 livres sur les rapports islam-occident. Et celui-là, c'est le tout dernier de la série, « Un amour radical », pour réfléchir sur ce qu'on appelle le radicalisme, ouais. et montrer que c'est plus compliqué, plus intéressant que simplement de dire « c'est des fous, c'est des psychopathes, c'est des... Mmh. » C'est, voilà.
Qui ont grandi dans des cités, qui ont des exclus sociaux,
oui,
etc.
Voilà, des raisons sociales, etc. Ouais. Je trouve que c'est un peu du mépris. C'est une façon de dire que ce n'est pas des sujets. Ce sont des gens qui parlent le chômage, qui parlent les cités, qui parlent des choses qui les dépassent, mais que eux ne parlent pas, eux n'ont rien à dire. Mmh. Et ce n'est pas vrai. Ce sont des gens... Alors là, il faut commencer à entrer dans le détail.
Ce sont des... On va entrer dans le détail.
Voilà. Si vous voulez, pour aller vite, le schéma que j'ai dégagé dans les trois monothéismes, c'est au départ, il y a la Bible, et pas tellement le judaïsme, parce que le judaïsme comme religion, c'est tardif. Vous voyez, il y a le monde biblique, le monde hébreu biblique. Et puis, avec des commentaires, la Mishnah, tout ça, et puis se lève un bonhomme qui dit « Toutes ces promesses, c'est moi qui les accomplis. » Et ça, c'est ce que j'appelle le coup de force christique, c'est-à-dire où un homme se lève, prend sur lui les fautes des autres, ce qui va leur poser des problèmes à ces autres, parce que apparemment être débarrassé de ses fautes par quelqu'un, ça vous rend coupable plus souvent qu'on ne pense. Mais peu importe, c'est une parenthèse. Et quelques siècles plus tard, c'est l'islam. C'est là aussi un monsieur très honorable, un caravanier, qui entend ces paroles, qui en fait les avait déjà entendues des marchands juifs et chrétiens, parce qu'ils faisaient les caravanes avec eux. Donc il était déjà très versé. Et je fais l'hypothèse qu'il s'est dit que les juifs et les chrétiens, c'était un peu des ploucs.
C'était has-been, quoi.
C'était,
ouais. Ça ne correspondait plus à son environnement.
Pas seulement, c'est que, en fait, il s'est dit que lui pouvait faire une construction plus forte, plus solide, et qui engloberait tout le monde, surtout. Mmh. Et c'est comme ça que vous trouverez... Alors, heureusement, j'ai un accès direct au Coran, puisque l'arabe, c'est ma langue, et que je connais l'hébreu. Donc, ça m'a beaucoup aidé, donc je peux vraiment...
Décortiquer les textes.
Voilà. Et c'est comme ça que vous trouverez le mot « kafirine » dans le Coran, qui veut dire les infidèles, les mécréants. Et c'est eux qu'il s'agit de combattre. Coran appelle ses fidèles les plus zélés à combattre sans cesse les infidèles. Mais qui sont les infidèles? Voilà la question.
Alors, je vous propose une courte pause musicale. Nous allons écouter du Rachmaninov.
Mais oui.
Vous êtes sur Fréquence Protestante. Dans ce dialogue sujet psy, je reçois Daniel Sibouni pour son livre « Un amour radical, croyance et identité » aux éditions Odile Jacob. Alors Daniel Sibouni, vous avez d'ores et déjà, vous êtes rentré dans le sujet et vous nous dites d'emblée la posture des religieux musulmans, je dirais calmes, tranquilles, comme c'est la majorité en France, et la posture de l'État nous conduit aujourd'hui à une impasse dans le regard sur les attentats et ces fameux combattants de l'islam qui viennent faire ces attentats en France ou dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui. Alors, c'est une impasse pas seulement sur la question des attentats. Je vais vous éclairer là-dessus. Je disais avant cette pause musicale qu'il y a une notion essentielle qui s'appelle en arabe les kafirines ou les koufars, c'est-à-dire les infidèles, les mécréants. Et je disais que les radicaux sont des gens déterminés à combattre les mécréants par tous les moyens. Qui sont les mécréants ? Et là, les choses deviennent intéressantes. Parce que kafirine, c'est un mot qui, en arabe et en hébreu, a la même racine, qui est le recouvrir. Donc, dans le Coran, les juifs et les chrétiens sont des kafirines, des mécréants, parce qu'ils recouvrent. Mais ils recouvrent quoi ? Et ils recouvrent, selon le Coran, la vérité de leur message qui, normalement, aurait dû les amener à rejoindre l'islam et donc la soumission. Alors, c'est une construction qui, moi, m'a intéressé psychologiquement, oui, logiquement, etc. J'ai trouvé ça très, 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 très excitant et très, très passionnant pour connaître la condition humaine. Vous savez, le christianisme, il a innové avec l'homme-dieu. Mmh. L'islam n'a pas innové. Il a emprunté dans les textes bibliques, essentiellement l'Ancien Testament. Il a pris des contenus et il a construit sa doctrine. Mais il fallait qu'il s'explique avec ceux qui le précèdent. Donc lui, il leur dit, eh bien, si vous êtes des vrais croyants, des musulmines, des musulmans, des mouminines, alors vous rejoignez l'islam. Et si vous ne le rejoignez pas, c'est que vous êtes des mécréants, c'est que vous avez recouvert kafirine, kafor, c'est le verbe hébreu biblique pour dire couvrir. De là vient le mot kippour. Vous savez, mm-hmm, kippour, oui, on recouvre les fautes. On ne les efface, mm-hmm, pas, on les recouvre. Donc, si vous ne rejoignez pas les hommes, vous êtes des kafirines, des mécréants. Vous recouvrez l'essence de votre message qui, normalement, doit vous amener à l'islam. Et eux, à l'époque, lui disaient, mais pourquoi on rejoindrait l'islam puisqu'il ne nous dit pas plus que ce qu'on a déjà. Mm-hmm. Il ne nous apporte pas quelque chose de nouveau. Et lui, il leur dit, il vous apporte l'islam. Donc c'est comme s'il construisait un nouveau parti, il dit, tous ceux des anciens partis, ils rentrent. S'ils ne rentrent pas, c'est des révoltés, des mécréants, des kafirines, qui refusent de reconnaître Allah et son prophète. De fait, Allah, c'est un peu le Dieu biblique, mais est un peu retravaillé, reformaté, parce que le Allah du Coran, il maudit les juifs et les chrétiens en tant qu'ils sont des mécréants. Donc tout ça tourne, vous voyez, mm-hmm. Ça, je dirais presque, ça se mord la queue. C'est-à-dire, c'est logiquement, c'est rond. Ouais. C'est ou bien vous entrez et vous n'êtes pas des mécréants. Si vous refusez d'entrer, vous êtes des mécréants. Et pour revenir au radicalisme, puisque c'est l'objet de ce livre, Un amour radical, moi je dis que les musulmans qui sont calmes, tranquille, vous prenez des musulmans au hasard, et ils vous diront, on n'a rien à faire avec les attentats, etc. Et vous constatez qu'en même temps, on ne peut pas dire qu'il y a des manifestations massives de musulmans qui condamnent les attentats. Donc, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il est très simple, c'est que les musulmans veulent vivre avec les autres, avec les chrétiens, les juifs, les mécréants, enfin avec tout le monde, ouais, en Europe, mais ils adorent un texte qui maudit les autres. Ils adorent le Coran qui maudit les juifs et les chrétiens et les athées parce qu'ils refusent l'islam. Et ça, c'est un peu, j'ai dit que c'était un conflit cornélien.
Vous dites que c'est un secret de Polichinelle, en fait.
Un secret de Polichinelle, mais qui travaille, oui, beaucoup. Et à force de n'être pas dit, c'est à force d'être tu, d'être couvert, que c'est devenu un secret de Polichinelle. Mais c'est pas parce que c'est un secret que tout le monde connaît que il ne fait pas son travail. Oui. Et le travail qu'il fait, c'est celui-ci, c'est que des jeunes ou des moins jeunes, tout à fait normalement, vont de temps en temps à la recherche de leurs racines, de leur origine, tout comme les chrétiens vont vers les origines, tout comme les juifs vont vers les... tout comme les tenants des Lumières, les rationalistes, plongent un moment à l'autre pour retrouver, se ressourcer, comme on dit. Et donc, quand eux plongent et trouvent ces racines-là, c'est-à-dire qu'ils sont très habités par une vindicte envers les autres, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent tout de suite des combattants d'Allah, mais ils gardent ça. Et si un beau jour, ils gardent ça et ils savent que s'ils veulent vraiment être des fidèles, c'est une option, non pas le terrorisme, mais le combat déjà pour l'expansion de l'islam, puisque l'islam, c'est la seule religion qui a vocation à se répandre sur l'ensemble de la planète. Donc à réduire à rien les mécréants. Et vous avez retenu surtout la définition de mécréant, qui est très simple. Ça ne veut pas dire méchant.
Oui, oui, oui.
Un mécréant, c'est quelqu'un qui...
Soit on est dans le sac, soit on n'y est pas.
Oui, un mécréant, c'est quelqu'un qui a reçu, surtout juif et chrétien, qui a reçu un message divin et qui, au lieu d'en tirer les conséquences et de devenir musulman, d'en tirer les conséquences, comme les premiers hommes de la Bible... comme Abraham, parce que dans le Coran, les grands Hébreux sont musulmans, mais Jésus aussi, Marie aussi, etc. Puisqu'ils sont soumis, puisque le mot là, il y a aussi une équivoque que j'ai analysée dans plusieurs livres, c'est que vous lisez un Coran en français, vous verrez Jacob qui dit à ses enfants, ne mourrez que soumis à Dieu. On dit, oui, c'est la moindre des choses. Hein. Mmh. Si en plus il leur dit, révoltez-vous contre... Non, il leur dit, ne mourrez que soumis. C'est banal. Mais si vous le lisez en arabe, ça veut dire, ne mourrez que muslimine. Ça veut dire musulman. Mmh. Reconnaissez que vous êtes musulman et que vous êtes soumis à Allah. Allah qui n'est pas, selon moi, tout à fait le Dieu biblique. J'ai dit qu'il a été... un peu retravaillé, réélaboré, pour être très strict sur qui est dedans, qui est dehors. Ceux qui ne sont pas dedans sont les mécréants. Alors, donc, ça fait que de temps à autre, voilà, et il y a des jeunes, des moins jeunes, qui passent à l'action ou qui expriment de l'hostilité, alors que la masse... ici, veut vivre, puisqu'elle est venue,
oui,
puisqu'elle est venue pour ça.
Oui.
Elle est venue pour ça. En revanche, dans les pays musulmans, il n'y a aucun problème à exprimer que les autres sont des mécréants, des cochons, des singes, etc. C'est normal, puisqu'il n'y a pratiquement plus de juifs et de chrétiens dans les pays arabes, par exemple. Il y en a en Turquie, en Iran, etc. Donc, vous avez ce problème qui est ici, c'est que des gens plongent, apprennent de quoi que c'est ce contenu très important qui est dans leurs racines, ne savent pas trop quoi en faire. S'ils rencontrent des gens plus radicaux qui les convainquent, ils se radicalisent davantage. Notamment quand... Donc pour moi, le problème, c'est de poser la question, est-ce que cette vindicte envers les autres, qui est très présente dans le Coran, est-ce qu'elle se transmet ici, en Europe, notamment au niveau du discours familial ? Parce que qu'elle soit interdite d'expression publique, c'est vrai, mais en partie, sachez-le. Ça veut dire que les appels à la haine sont interdits par la loi. Oui. Mais si quelqu'un dit « À vous, les chrétiens et les juifs, on sait ce que Dieu dit de vous, il vous maudit. » Ça, c'est pas un appel à la haine.
On en extériorise.
Voilà. Ça veut dire si on passe par l'extérieur. Le texte sacré. Mmh. Autrement dit, je me suis trouvé à dégager deux points qui semblent un peu pratiques, mais pour moi, ils ont leur intérêt. C'est que il faudrait arriver à au moins marquer que les appels à la haine en langage religieux ne sont pas souhaités, sont interdits.
Oh, eh bien, je vous propose une petite pause musicale sur ce sujet pour nous laisser le temps de digérer. On va écouter du Schumann, une arabesque. Vous êtes sur Fréquence Protestante dans Dialogue Sujet Psy et je reçois aujourd'hui Daniel Sibony pour son livre Un amour radical, croyance et identité aux éditions Odile Jacob. Alors Daniel Sibony, parlons maintenant de l'attitude de la République. Vous dites il y a une hypocrisie, un renoncement à la laïcité dans la façon de voir le radicalisme islamique, qui aboutit au djihadisme. Soyons très clairs.
Alors, je poursuis un instant sur le fait que certains vont vers les racines, remontent avec cette vindicte envers les autres, donc cette nécessité théorique et même pratique de les combattre. Certains par la violence, d'autres autrement. Ce qui se passe, c'est que dans l'ensemble des musulmans en Europe, notamment en France, il y a donc cette envie de vivre avec les autres. Donc, il y a un déni normal de cette violence. Si on vient vivre avec les autres, on ne va pas leur rappeler toutes les cinq minutes que notre livre sacré, c'est-à-dire le Coran, les maudit. Donc, on dit carrément, il n'y a pas de problème. Donc, il y a déjà un déni dans le milieu musulman par rapport à la violence coranique envers les autres. Et moi, je dis que ce déni est naturel, parce que, à cause de la convivialité. Sinon, ça ferait qu'on ne pourrait même pas se croiser, se regarder. Donc, il y a ce déni. Le problème commence, c'est déjà un problème que toute une population doit être dans le déni, mais le vrai problème commence quand l'establishment culturel, politique, etc., endosse ce déni, le prend à son compte et dit « il n'y a pas de problème et il n'y a pas de violence ». Dans les racines de l'islam, dans les livres sacrés de l'islam, envers les autres. Ce sont juste quelques cas sociaux, quelques excités, quelques psychopathes qui, voilà, il faut les contrôler par les méthodes de la police, etc. Et donc, et c'est un déni, alors au sens pur, au sens, vous savez, où une femme enceinte qui ne veut pas de cette grossesse, elle peut être dans le déni au point que son ventre reste plat jusqu'au septième mois où, pour un examen presque de routine, le médecin lui dit « vous êtes enceinte » et là, le ventre gonfle, soudain. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle était folle, ça veut dire qu'elle faisait un clivage. Ça veut dire qu'il s'est coupé en deux. Donc, le déni musulman sur la violence coranique envers les autres, qui est plutôt naturel, en tout cas compréhensible, étant pris en charge et endossé par l'establishment, ça mène l'establishment à un déni quotidien des problèmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème qui est posé, on le réduit à rien, voilà, s'il y a des, je ne sais pas, des 50% ou je ne sais pas, 45 d'élèves juifs qui doivent quitter les établissements publics parce qu'ils sont harcelés par leurs camarades musulmans pour des raisons de religieuses, de foi, voilà. Et eh bien, bon, ben, on va leur trouver une solution et on trouve une solution. S'il y a des populations qui doivent se déplacer, s'il y a, voilà, s'il y a déjà des gens qui ne peuvent pas manger du porc dans le coin parce que c'est abhorré par telle communauté qui est majoritaire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, si vous voulez, il est gommé. Et je dirais même que ce livre en a pâti parce que ce livre, vous l'avez lu, il est très clair, il n'est pas violent.
Non, pas du tout, non.
Eh bien, aucune des radios publiques n'en a dit un mot. Non seulement aucune des radios publiques, mais aucun des journaux.
Ce sont des propos qui dérangent.
Voilà.
On aime mieux recevoir finalement les psychologues, les psychiatres qui s'occupent de déradicaliser, par exemple, des terroristes.
Et voilà.
Je ne dis pas qu'il ne soit pas nécessaire, hein, parce que je pense qu'il y a un vrai travail. Mais c'est ça dont on s'occupe.
Voilà. Sauf que j'ai des doutes. On a déjà investi beaucoup de millions pour la déradicalisation. Quel mot horrible.
Oui.
Déradicalisation.
Oui, c'est déradicalisation.
Eh bien, je doute que quelqu'un, même s'il est averti des textes, quelqu'un qui est musulman ou pas musulman, qui écoute un radical, je ne pense pas qu'il puisse vraiment l'entendre si lui-même affiche qu'il n'y a rien d'écrit de violent envers les autres dans le Coran. Parce qu'alors, il est dans le mensonge et il est là pour ne pas entendre ce que l'autre a entendu et qu'il a adressé d'une façon forcément désordonnés, chaotiques. C'est pas des gens d'une grande et qui sont perturbés. Et c'est logique. Vous-même, moi, on serait perturbés si on avait une moitié de notre identité qui nous dit « les autres, c'est des salauds
ouais, » ouais.
et une autre moitié qui nous dit « écoute, ils sont c'est des bons copains, on travaille ensemble, etc. » Vous comprenez ? Donc, à mon avis, le chemin là, de la déradicalisation, c'est fait pour fonctionner, mais les résultats sont plus que maigres, parce que si on part avec l'hypothèse que ce sont des malades,
ouais.
alors on zappe complètement le problème.
Ouais.
Peut-être que la psychopathologie va obéir et qu'elle va soigner des gens, mais je crains que...
Pas sur l'essentiel. Elle va soigner la psychopathologie de ces gens-là.
Mais qui ne sont pas plus psychopathes que d'autres.
Il y en a peut-être.
Mais ils ont droit. Ils ont droit. Il y a parmi eux des cas, des névrosés, etc. Comme il y en a partout. Il y a peut-être quelques états limites, mais je peux vous assurer que ce n'est pas facile d'apprendre dans sa famille par le langage quotidien, simplement. Mais tu deviens juive ou quoi si elle fait des saletés. Et ça peut être courant. J'ai eu des témoignages de gens élevés. J'ai eu un patient qui avait grandi en Algérie. Il était à moitié musulman, enfin, il était par son père et sa mère était européenne. Et ils ont vécu quelque temps en Kabylie. Et il m'a dit, toute mon enfance, on nous insultait, on nous jetait des pierres. Et je lui dis, quelle insulte ? Il me dit, on nous disait l'Ihud. Et c'est beaucoup plus tard qu'il a compris que l'Ihud, ça veut dire les Juifs. Donc, l'insulte, c'était les Juifs. Alors qu'ils n'étaient pas Juifs. Mais ça veut dire que c'est entré dans le langage courant. Vous entendrez même des sociologues musulmans dire « Mais vous savez, l'antisémitisme dans les pays islamiques, il fait partie des mœurs. » Donc c'est comme pour dire « c'est pas grand-chose puisque c'est bien intégré dans les habitudes. » Et d'où ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen, premièrement, d'empêcher, d'interdire les appels à la haine publique en langage religieux, et deuxièmement, de déconseiller, de parler, et pour que cette vindicte envers les autres ne se transmette pas dans l'éducation culturelle, dans la culture familiale. Bref, faire une culture... Et c'est là qu'il y aura un travail énorme, une culture qui, tout en ayant ce livre sacré qui fulmine contre les autres, soit une culture de la non-haine envers les autres.
Oui, parce que vous dites même à la page 50, là je vous relève, le vrai danger n'est pas le terrorisme, mais l'usage qu'en font d'un côté les religieux et de l'autre les forces étatiques. C'est exactement ce que vous faites. On pointe le terroriste est donc une espèce de psychopathologie, alors que le vrai sujet, c'est ce qui est dit dans le texte coranique.
Bien sûr, et l'éducation qui s'ensuit.
Oui, oui.
Et l'éducation... Parce qu'il faut pas
oui,
non plus.
Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'être dans l'intégrisme par rapport à un texte.
Les gens ne vont pas plonger dans le texte sacré du matin au soir, encore qu'il y en a beaucoup, mais ça passe dans une culture, et c'est là que ça pose un vrai problème, et devant lequel il me semble que les responsables se défilent, et même, vous savez, ça va très loin, ça veut dire qu'il y a un vrai effet de censure. Là, nous sommes en train de parler, on est plutôt dans l'amour, je crois. On est plutôt
en tout cas, on n'est pas dans la haine.
Oui, mais on est dans l'amour de l'humain.
Tout à fait.
On est plutôt là. Eh bien, on est en train là de transgresser quelque chose, puisqu'on parle d'un secret de Polichinelle.
Ouais. Oui, on déconstruit les choses. Là,
comme vous l'avez nommé, et dont il est quasiment interdit de parler. Et ce petit livre que j'ai fait, après quoi d'ailleurs j'ai décidé d'arrêter un certain temps les textes sur Islam Occident. J'ai d'autres livre qui se termine, mais je trouve que avec ces quelques livres, notamment aussi avec Islamophobie, culpabilité, j'en ai dit beaucoup. Parce que sur la culpabilité occidentale affichée...
Alors je vous propose qu'on en parle après une petite pause musicale.
D'accord.
Donc cette fois-ci, on va écouter du Schubert, un impromptu. Thank you. Nous sommes sur Fréquence Protestante et aujourd'hui dans ce dialogue sujet psy, je reçois Daniel Ciboni pour son livre « Un amour radical, croyance et identité » chez Odile Jacob. Alors Daniel Ciboni, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est justement pourquoi est-ce que la République, donc la République, dans la République, ben, y a la laïcité, donc il y a une certaine philosophie des Lumières hein, en France, c'est quand même la République est issue de cette philosophie des Lumières, mais aussi l'éthique chrétienne et aussi, je dirais, l'éthique juive, puisque l'intégration de l'éthique juive dans la société en France, elle est présente hein, également. En quoi est-ce que cette éthique occidentale est confrontée, enfin, comment elle réagit, pourquoi est-ce qu'elle met le voile, pourquoi est-ce qu'elle est dans le déni par rapport à cette éthique coranique qui est ultra-violente contre elle?
D'abord, une raison évidente, c'est la peur. L'islamophobie. Ça veut dire que tous ces braves gens qui dénoncent l'islamophobie sont eux-mêmes dans la phobie de l'islam, tout simplement. Ils ont peur qu'on les attaque, il y a des attentats, il y a des gens violents, etc. Donc ça, c'est une peur presque physique qui fait que non, il n'y a pas de problème, etc. On se défile et il n'y a rien à voir, etc. Ce qui est grave, parce que ce sont des cohabitations culturelles, ce sont des questionnements culturels qui sont très profonds. Deuxièmement, il semble qu'en effet, dans cette culture occidentale, la culpabilité tienne lieu d'éthique. Ça veut dire que si vous vous sentez coupable, si vous dites, par exemple, après les attentats du 11 septembre, les réactions typiques occidentales, c'est « ben oui, on ne les a pas compris, on ne les a pas soutenus, qui ?» Ah ben, les gens des banlieues, etc., les déshérités. Mais ceux qui ont fait les attentats, c'était des millionnaires qui l'ont organisé et qui l'ont exécuté de leurs mains. Ben Laden, c'était pas un déshérité. Donc, il y a une façon de dire, vous savez, quand un événement se passe et que vous dites « c'est moi le responsable », vous prenez un peu de l'ascendant dessus. Au lieu de dire, bah, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, on a une guerre interne chez nous. On a une petite guerre civile. Bah, il faut la penser comme telle. Non, pas du tout. C'est pas une guerre. Déjà, le penser, c'est grave. D'autre part, il y a une éducation humaniste qui a seriné et de façon obsédante que l'Occident est coupable envers le tiers-monde.
Et ça, est-ce que ce n'est pas le christianisme qui véhicule ça?
Alors, j'y viens. Et sur tout ça, je dirais, il y a une sauce chrétienne qui est « on vous frappe, il faut tendre l'autre joue ». Sauf que si vous tendez l'autre joue à des gens qui sont impatients de la frapper, tout le montage de Jésus, il ne tient pas. Vous tendez l'autre joue dans un processus qui amène l'autre à renoncer à sa violence. Mais votre passivité, pour l'instant, elle ne lui sert qu'à une chose, qu'à être plus actif. Donc, elle est en porte-à-faux. Et puis donc, des contresens historiques, c'est-à-dire, on dit, ben oui, on les a quand même colonisés. Il y a eu un colonialisme européen. Mais c'est vrai. Sauf qu'il y a eu avant lui un colonialisme musulman. Oui, mais il y a eu les croisades. C'est vrai, mais il y a eu avant les croissanades ou les croisades musulmanes. N'oubliez pas que les croisades, c'est la mollesse un peu pâteuse de l'Europe qui a mis 3 siècles pour aller reconquérir les lieux saints, avec des excès forcément, et en massacrant au passage toutes sortes de non-chrétiens. Et elle a mis 3 siècles pour aller récupérer ça. Et ça a foiré parce que c'était pas dans l'esprit, c'était pas le projet de faire un royaume, etc. Enfin, donc c'était un petit peu cinglé. Mais chaque fois, vous trouvez que c'est intriqué, qu'il y a eu des invasions, l'Europe aussi a été envahie, etc. Donc, il n'y a pas de culpabilité. Et c'est comique de voir que le quidam en France, si on lui dit « Ah ben oui, mais t'as été un colon quand même. » « Ah ben non, moi j'ai pas été colon, ni mon père, ni mon grand-père. » Et il vous dira, certes, il était en Algérie, mais il avait une boutique, il cultivait du raisin, il n'était pas colon.
Et sans aller chercher la colonisation, on va chercher aussi les cités. Donc on se dit, ces pauvres qui font des attentats, etc., ils vivent dans des cités épouvantables. Enfin bon, il est vrai qu'il y a une France des cités où il n'y a pas de droit, mais ça n'a peut-être rien à voir avec le fait qu'il y a des musulmans dedans. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun lien de cause à effet.
Mais justement, à la limite, les cités, ça exprime le fait qu'on a résolu le problème du logement bêtement, c'est-à-dire sans penser à l'activité des gens. Donc on a des jeunes, il y a 30% de chômeurs dans certaines cités, ben oui, donnez-nous du travail.
Oui, et puis il n'y a même pas de transport, hein, souvent.
Voilà. Donc là, c'est bien sûr que s'il y a une culture qui comporte de l'hostilité envers la culture qui la reçoit, qui l'accueille, c'est grave parce que l'autre, la culture d'accueil, la culture française, elle va avoir toutes ses blessures surinfectées, surexcitées par le fait qu'il n'y a pas de solution. Le chômage n'a pas encore trouvé de solution, etc. Donc on va dire, eh ben c'est à cause du chômage. Ou bien c'est à cause de la formation insuffisante. C'est vrai, mais il y a tout un pan qui vient d'un problème réel devant lequel se défile l'Occident par cette culpabilité que j'appelle narcissique ou perverse, qui consiste à dessaisir les gens de leurs problèmes en disant « c'est nous qui en sommes responsables ». Et de ce fait-là, je crois que c'est vraiment essentiel que non seulement les responsables, mais les individus à tous les niveaux se décomplexent par rapport à cette culpabilité qui fait florès dans les campus américains. Vous savez, dans les campus américains, on enseigne que l'Occident ne comprendra jamais rien à l'Orient. C'est comme ça.
Ah oui.
Il est taré.
On s'est débarrassé du problème.
Il est bête.
Oui.
C'est l'Orient qui va expliquer, qui va nous ramener, et qui, malheureusement, quand la religion... Et c'est là, je terminerai en regrettant que dans les soi-disant débats religieux, on n'invite pas des gens plus avertis. Ça veut dire que moi, j'aimerais faire partie de débats religieux où j'explique que la solution du problème n'est pas de mettre le voile sur les problèmes et de mettre une valise dessus et de s'asseoir dessus, mais de voir de quel problème il s'agit. Sinon, on enseigne aux gens des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses.
Là, on retrouve le mathématicien.
Eh oui.
Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Daniel Cibouni. Et je dis à tous nos auditeurs, eh bien, au mois prochain.